Chers amis, bonjour. Landes et tourbières, bocages et forêts, rivières et mers, monts et vallées, falaises et plages dessinent un paysage tout à fait unique. Sur quelques 1200 km², le parc naturel régional d'Armorique est le deuxième parc naturel régional créé en France en 1969. Un peu plus de 63 000 habitants de 44 communes peuplent ce territoire très vivant au cœur du Finistère, une destination touristique très courue, la presqu'île de Crozon, les monts d'Arrée, les landes du Cringou-Vergame, la forêt du Helgoat, les îles d'Iroise font partie du parc d'Armorique. Le parc vient aussi d'obtenir la labellisation géoparc de l'UNESCO du fait de la richesse géologique de son sol. Nous sommes installés au siège du parc dans une petite cité de caractère, Le Fou, au fond de la rade de Brest. Et avec nous, pour participer au jeu des 1000 hectares sur Tram Tram, la radio des trams écologiques, nous avons Marc qui est adjoint à l'environnement du Fou. Bonjour.
Bonjour Véronique.
Valentine qui est gestionnaire des routes pour le département du Finistère. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Et Anne qui est conseillère environnement à Brest. Bonjour.
Bonjour.
Anne. Et Stéphanie qui est chargée de mission Natura 2000 pour le syndicat de bassin de les Landes. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes prêtes et prêts?
Oui. Oui.
La première question, verte et bleue, d'Augustine Améthyste de Saint-Paban. Vous avez sur votre commune un lavoir et vous souhaitez mettre en valeur ce patrimoine tout en préservant la biodiversité. Comment allez-vous faire? On commence par vous, Anne.
Oui, alors déjà, il faut nettoyer le lavoir, mais pas n'importe comment.
Exactement. Il faut commencer par se demander, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon lavoir? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un inventaire biodiversité pour essayer de déceler les espèces protégées qui pourraient déjà être présentes dans le lavoir? Et également, voir est-ce qu'il y a des plantes invasives ou est-ce qu'au contraire, c'est des plantes autochtones et auquel cas, il est très important de les laisser sur place?
Et il ne faut peut-être pas le faire n'importe quand aussi.
Exactement. Parce que si on a des espèces qui sont là, on va éviter d'aller les déranger en pleine période de reproduction. Donc plutôt à l'automne, si on veut toucher au lavoir.
Marc, il faudrait s'assurer qu'il y a suffisamment d'eau peut-être?
Oui, parce qu'une des fonctions du lavoir, c'est quand même de contenir de l'eau. Hein, et donc quand on sait qu'on manque énormément de pièces d'eau, de mares dans la région, c'est important, disons, de veiller à ce que l'eau arrive dans le lavoir et circule dans le lavoir.
Et alors, pas trop quand même.
Enfin, pas trop non plus. Bon, il faut veiller aussi à ce que ce lavoir, avec l'eau qu'il contient, ne devienne pas un piège pour certaines espèces. Et donc, veiller à mettre une rampe pour que les espèces qui souhaiteraient à un moment se mettre un petit peu dans une situation différente, un peu moins mouillée, puissent sortir.
Valentine, c'est pas tout une fois qu'on a fait sa restauration du lavoir. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut beaucoup expliquer, communiquer, quelle que soit la génération, les petits ou les grands, que les anciens ne viennent pas dégrader le site avec leur eau de Javel ou les adolescents ou jeunes adultes lavaient leur combinaison dans notre joli lavoir plein de biodiversité. Et pour ça, on va mettre des panneaux, on va communiquer. Et le suivi initial que nous allons effectuer, nous allons le reproduire tous les ans et communiquer dessus pour montrer l'évolution et l'importance du lavoir, de la mare et de sa fonction dans la biodiversité locale.
Eh bien, c'est une excellente réponse de tous les quatre. Merci beaucoup. Question noire à présent. Tram noire d'Erwan Kersanton de Plougnien. Je dois faire évoluer l'éclairage public de ma commune. Quelles sont les étapes incontournables pour mener à bien cette action? Marc?
Alors déjà, pourquoi faire évoluer les pratiques en termes d'éclairage public? Il y a deux raisons essentielles à mes yeux. Une raison écologique et une raison économique. Raison écologique, bon, c'est quelque chose que j'ai appris à une réunion à laquelle j'avais assisté au parc naturel régional d'Armorique. Justement, c'est que l'essentiel de la biodiversité est en voie de disparition avec deux causes essentielles qui sont les causes agricoles qu'on met souvent en avant. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi donc l'éclairage nocturne qui perturbe la vie d'un nombre considérable d'insectes dont on peut préciser aujourd'hui qu'il y a 80% de pertes d'insectes dans les décennies qui nous précèdent. Donc un aspect écologique, bien sûr, et un aspect économique. En 2022, on a subi une crise économique. Hein, les petites communes s'en souviennent parfaitement bien. Et réduire l'éclairage public, c'est aussi réduire la facture d'énergie inhérente à cet éclairage.
Alors on voit bien les intérêts, mais il y a cependant des freins, Valentine.
Oui, beaucoup de freins, surtout au niveau des routes. L'usage du vélo, les enfants qui vont traverser au niveau des routes départementales pour rejoindre leur arrêt de car, leur école, les commerces aussi qui aiment être éclairés par questions de sécurité. Enfin, dans l'imaginaire, ça sécurise alors que les études ne vont pas forcément dans ce sens-là. Donc il va falloir travailler là-dessus et faire comprendre aux gens que éteindre, finalement, ce n'est pas une augmentation des agressivités, des incivilités.
Ensuite, Anne, on procède.
Alors, déjà, pour faire évoluer l'éclairage d'un public de la commune, c'est aussi de bien connaître sa commune. Et pour bien connaître sa commune, au niveau de l'éclairage, il faut faire un état des lieux, voir un peu, connaître les parties qui sont éclairées, trop éclairées, pas éclairées du tout. Donc, il faut faire vraiment une cartographie de toute la commune. Et là, à ce moment-là, pouvoir savoir comment on peut faire évoluer et dans quel sens.
Et la dernière étape, avant de couper certains éclairages, peut-être Stéphanie.
Ah bah, l'indispensable concertation. Une action sans concertation, c'est une action qui est vouée à l'échec. Ça, c'est évident. Alors, il faut concerter, il faut essayer de comprendre pourquoi les habitants sont attachés à l'éclairage pour des aspects de sécurité, d'habitude. On peut diminuer ou peut-être on peut juste mettre des détecteurs pour vraiment avoir une réponse aux inquiétudes de la population en adéquation avec la biodiversité de leur commune.
Merci beaucoup à tous les quatre. Une fois de plus, c'est une excellente réponse collective qui nous amène à la question rose, la question de Rose du Rose, qui habite, elle, Logonac-en-Frout. Les projets de végétalisation des centres-villes, des cimetières, des cours d'école sont des projets parfois sensibles auprès de certains habitants. À cause des mauvaises herbes, ça ne fait pas propre, il n'y a pas de respect pour les morts. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces freins, à ces craintes ?
Alors vous parlez Véronique, des mauvaises herbes. Des mauvaises herbes, un célèbre poète local, Philippe Le Guillou, qui habite près du cimetière, ne parle pas de mauvaises herbes, il parle d'herbes folles. Et je préfère cette manière d'envisager les choses, les herbes folles du cimetière du Fou. Et donc, on a aujourd'hui un frein culturel. Si on revient 50 ans ou 60 ans en arrière, les cimetières étaient beaucoup moins propres que ce qu'ils ont été quand on a pu abuser de produits, de pesticides. Donc depuis 15 ans sur la commune, maintenant, nous n'utilisons plus de pesticides, ce qui fait qu'il y a des herbes folles qui y viennent. Et voilà, donc il faut se dire que dans certains pays, en Grande-Bretagne par exemple, les cimetières sont végétalisés, il y a de l'herbe partout. Les cimetières méditerranéens sont remplis de végétation et ce sont des peuples qui ne respectent pas plus leurs morts que nous, hein, car nous respectons nos morts.
Et bien un autre frein aussi, c'est les cours d'école. Donc on va avoir le gang des enfants propres et des parents propres qui vont avec et qui préfèrent que leurs enfants n'aillent pas dans la boue parce que c'est sale, ne se prennent pas les pieds dans une racine d'arbre parce que c'est dangereux et que rien ne vaut une bonne chape de béton. Et là-dessus, on a un gang opposé, le gang des parents qui sont plus ouverts à l'école buissonnière et qui ben, finalement se disent que les enfants, c'est en jouant dans la nature qu'ils apprendront aussi à la protéger. Et on voit au niveau des pays nordiques que l'école se fait directement dans la nature, que tout se passe très bien. Il faut que les mentalités changent sur l'approche de l'enfant dans la nature et ça même dans la cour de récréation.
Il est important de communiquer sur les intérêts de la végétalisation. Les personnes qui sont dans l'ignorance ou qui ne savent pas trop, qui ne connaissent pas les intérêts de la végétalisation, ils en ont peur, ils ne comprennent pas vraiment cet intérêt, donc ils vont aller contre. On sait très bien que quand on ne connaît pas, on ne fait pas.
Eh bien, encore une excellente réponse. Décidément, vous êtes très fort. Cela vous donne droit d'aborder à la question banco. Est-ce que vous l'acceptez ? Banco, oui, bon, banco. C'est bien. Alors, c'est Romain Dugret qui vit à Postoporzic qui nous envoie la question banco, une question bocage. Banco, bocage, Stéphanie ?
Alors, attention sur le bocage, il ne faut pas se planter.
On touche du bois. Alors, comment déjà valoriser ou renforcer le bocage ?
Ben pour ne pas se planter, il faut appliquer la réglementation. Il y a une réglementation abondante hein, sur le bocage. Donc, ce n'est pas la peine d'inventer autre chose. Appliquer la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ce sera une manière, disons, de le préserver et de le valoriser.
Oui, tout à fait. Il faut déjà connaître son bocage et protéger l'existant. Ça, c'est vraiment primordial parce qu'on a du bocage qui peut disparaître impunément. Et déjà, le connaître, le protéger, l'inscrire dans le PLU, c'est déjà une première étape.
Plan local d'urbanisme ?
Dans le plan local d'urbanisme, tout à fait. Pour s'assurer que le bocage reste bien présent sur la commune. Et ensuite, replanter du bocage, forcément, ça ne peut être qu'un plus, Mais déjà, faire en sorte que son bocage existant soit toujours là, c'est vraiment fondamental pour cette protection.
Et on arrive immédiatement sur le principe, donc s'il y a une réglementation à faire appliquer, il faut aussi un système de contrôle qui aujourd'hui, on doit le dire, n'existe pas vraiment.
Et quand on replante du bocage, qu'est-ce qu'on peut faire appel à quel dispositif ?
Alors on va voir le dispositif Braise Bocage pour les agriculteurs qui va permettre de financer la plantation de bocage, mais je crois que le département également a quelque chose à dire sur le sujet.
Oui, également. Le président, ce fut une de ses premières décisions de lancer le plan Arbre pour reboiser le département du Finistère. Et nous, à la direction des routes, lorsque nous faisons des infrastructures aussi, nous plantons pour retravailler la trame verte et améliorer notre environnement.
Mais bravo encore, vous êtes vraiment très fort. Et vous avez donc accès, si vous le souhaitez, au super. Eh oui, le super banco, est-ce que ça vous dit ?
Oui.
Très bien. Alors, la question super banco est une question épineuse qui nous vient de Camille Schiste de Plounévé-Bottemeur. Que fait-on quand on trouve un hérisson dans son jardin ?
Alors, deux cas de figure se présentent. On le trouve la nuit en allant faire une petite promenade nocturne. On le trouve la nuit... On le laisse tranquille, voilà, parce qu'un hérisson la nuit, rien de plus normal. Par contre, quand on le trouve en pleine journée, là encore, deux sous-situations, un tout petit hérisson, donc ça veut dire qu'il a probablement perdu ses parents, il est là, et si on le laisse, il va mourir très rapidement. Donc, si on a un peu de temps à passer au chevet du bébé hérisson, il ne faut pas hésiter. Il faut savoir quand même que c'est à base de lait de chaton, et pas de lait de vache, parce que le lait de vache est mortel pour le petit hérisson. Donc nourrir le petit hérisson toutes les 3 heures, donc se lever la nuit pour donner son biberon au petit hérisson pendant plusieurs semaines, hein, ça dépend de son âge bien évidemment. Après, quand il sera un peu plus mature, et on pourra lui donner de la pâtée pour chien par exemple, ça lui ira très bien, et il va grossir très vite. Voilà, donc et une fois que le hérisson est grand, il peut se débrouiller tout seul, on peut le lâcher par exemple chez sa belle-mère.
Alors attention, si vous ne souhaitez plutôt que votre hérisson s'ouvre à la vie en collectivité, il y a aussi des crèches pour hérissons, autrement appelées refuges de faune sauvage, où il ne sera peut-être pas nourri à la pâtée pour chien, mais avec un régime alimentaire qui pourrait peut-être plus lui rappeler la nature. Donc ça peut être aussi intéressant, puis ça peut vous éviter de vous faire dénoncer par vos voisins auprès des services de l'État.
Car c'est interdit bien sûr de détenir
des... C'est interdit bien sûr de détenir des espèces protégées, aussi mignonnes soient-elles.
Eh bien, je peux vous dire que le Super Banco est gagné et par tous les candidates et candidats. Vous repartez donc avec 1000 hectares de trames de toutes les teintes. Félicitations. Merci au Parc Naturel Régional d'Armorique pour son accueil. Quant à nous, on vous retrouve sur Radio Tram Tram pour une prochaine édition du jeu des 1000 hectares. Ce sera dans le Parc Naturel Marin d'Iroise. À lundi, si le cœur vous en dit.
Voilà, bien.
Et voilà.